création
on air.
On air. Creation on air. Bonsoir. C'est un moment cruel de la vie. Une émotion déclenche la première vague d'une marée obstinée, couleur noire de l'éternité. Il semble que nul autre ne soit touché aussi intensément. Cette nouvelle stérilise la pensée et le corps. De la musique parfois, ou une poésie, comme une longue mélopée, semble absorber un peu de cendre. Les amis compatissent au mieux. Se taire, comprimer les battements des tempes, pas un mot durant des mois. 7 ans après, le courage vient d'aller interroger ceux qui ont pris de plein fouet le drame. Depuis ce qui s'est dit sur l'île de Santorin, en passant par les murmures des châtaigniers et des ruisseaux en Creuse. Le deuxième cri, Véronique Lamandour, Annabelle Brouard, création On Air.
Les dernières paroles échangées avec ma mère. C'est sur cette île que je les ai échangées par téléphone. Le 9 mai 2010. Elle me donnait des nouvelles de mon père, me disant qu'il allait devoir faire une convalescence. Il ne pourrait pas partir cet été, leur été, dans leur maison en Normandie. Elle était perturbée par ça. Je me souviens avoir pleuré après avoir accroché. Que j'avais pressenti quelque chose.
Sur l'île du volcan, le gouffre s'est ouvert. J'ai peu à peu sombré dedans. Pour surnager, j'ai longtemps agité mes bras. Les épaules ont lâché. Immobilisation requise. La création vient de ce temps suspendu, comme un écho de traumatisme.
On venait juste d'arriver au parking, à Fira. Je ne sais plus si c'est moi qui ai reçu l'appel ou si c'était sur ton téléphone. Mais j'ai eu Denis, qui m'a demandé de te parler, en me disant qu'il n'arrivait pas à te joindre. J'ai souvenir que tu étais à l'arrière de la voiture, à droite. Je crois que ma sœur était là. Marcos devait conduire. Je devais être côté passager.
Ça pourrait être là.
En tout cas, le souvenir que j'ai, c'est une lumière blanche, celle de Santorin, que tu connais bien.
Les souvenirs sont flous.
Une lumière très forte, quasiment de la surexposition.
Je visualise l'emplacement de la voiture. À peu près.
Et puis un lieu confiné. C'est 4 personnes, peut-être 5, je sais pas. Puis surtout, c'est le mouvement en arrière. De passant le téléphone et comprenant immédiatement qu'il s'était passé quelque chose de grave. Et je me souviens d'avoir alors repris le téléphone et Denis me disant « Attends, c'est pas fini ». Donc, je comprends qu'il y a une suite. Pour moi, c'est plus des images. Même pas des sons. Mais c'est un cri.
Marcher la colère. Marcher la colère. Le sol. Déposer la peine.
Déposer la peine. Laisser une empreinte anéantie.
Marcher la colère.
Laisser une empreinte anéantie.
Fouler le sol.
Écraser.
Déposer la peine.
Faire jaillir la violence du choc.
Anéantir la douleur.
C'est une empreinte.
Écraser les larmes. Faire jaillir la violence du choc.
La violence du choc. Marcher. Marcher pour ne pas
marcher
exploser.
Pour ne pas exploser en vol.
Pour ne pas
se coucher et mourir. Pour croire à une vie. Après. Marcher pour exhumer la tristesse. Pour vider la tête.
Corps abîmé,
pour épuiser le corps.
Rempli de douleur.
Marcher
le fatigue.
Marcher le refus de l'abandon. Marcher la croyance de la présence. Marcher
l'apprentissage de la solitude.
Et
respirer. Respirer pour laisser s'écouler le chagrin. Librement. Sans honte. Sans l'enfouir. Ni le brandir. Le laisser être. À l'aune de la peine. Et toi ? Que faisais-tu ce jour-là ? Et toi ? Que faisais-tu ce jour-là ?
Je devais être en train de regarder un film. De mémoire, le téléphone allait sonner vers 22h30. Et qu'on était un dimanche soir. Lequel. Aucun souvenir.
Et au coup de téléphone, tu peux le raconter au coup de téléphone, non ?
Oui, c'est mon GSM qui a sonné. J'ai sans doute eu un médecin. Il m'a d'abord demandé si j'étais à Paris. Quand je lui ai répondu que j'étais à Paris, il m'a expliqué que l'état de santé de notre père nécessitait qu'on vienne jusqu'à l'hôpital. Il m'en a pas dit plus, je l'ai pas questionné non plus. Je lui ai juste demandé si j'étais la seule personne à avoir été prévenue. Et là, il m'a répondu qu'il avait déjà prévenu notre mère. J'ai immédiatement appelé notre mère. J'ai très vite compris qu'elle n'était pas au courant. Quand je lui ai expliqué qu'il fallait se rendre à l'hôpital, elle a eu le souffle coupé instantanément. Elle a juste eu le temps d'appeler notre frère, Eric, avec qui j'ai ensuite parlé brièvement en lui expliquant la situation. Donc ensuite, on a raccroché. Je suis sorti de la maison, j'ai été prendre un taxi et je me suis rendu à l'hôpital.
Donc en fait, le coup de fil, je ne l'ai pas entendu. J'ai eu simplement maman qui est rentrée un peu rapidement dans la chambre et dit « Tiens, je te passe ton frère ». Donc j'ai eu Denis au téléphone en disant « Voilà, écoute, je vais à l'hôpital, visiblement papa n'est pas en forme, mais voilà, c'était pas plus que ça, quoi, donc très bien. » On s'est dit « Bon, tout simplement, on va aller à l'hôpital. » Et il n'y avait pas d'affolement, voilà, en tout cas pas chez moi, on s'est levé, et puis voilà, j'ai appelé un taxi, fait en sorte qu'on puisse tranquillement y aller. Et puis moi qui suis serein, je sens qu'effectivement maman n'est pas sereine du tout, elle commence à stresser, paniquer, je veux pas pouvoir aller chercher le taxi, je vais pas pouvoir descendre, enfin bon, tout ça s'enchaîne, il se passe bien, allez, un peu de palabre de 5 minutes à peu près, je me retourne et puis écoutez, elle avait fait un malaise, c'est ça.
Avec papa, on est arrivé en fin d'après-midi, parce que le lendemain, je passais le concours veto, le soir... On est allé avec mamie au resto, en bas de la rue, juste en face. Mamie était beaucoup inquiète, elle parlait beaucoup de leur maison en Normandie, comment elle allait y aller, comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait l'emmener. On est rentré vers 22h. Je suis partie me coucher tôt à cause du concours le lendemain. J'étais déjà au lit quand mon père m'a dit « je vais à l'hôpital ». Après, quand j'ai commencé à l'entendre appeler le SAMU et les pompiers, je suis venue dans la pièce à côté. Quand les pompiers sont arrivés, mon père, il se souvenait plus du code. Du coup, il m'a demandé de tenir mamie, le temps qu'il aille le rouvrir. Ça a été très très vite, en quelques minutes, elle avait plus de réaction. Quand ils sont arrivés, ils m'ont viré de la pièce. Dans la chambre à côté, j'entendais juste les bruits. Papa faisait des allers-retours pour me tenir informée. Il me disait « Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance. » J'y croyais pas, en fait. Je croyais pas quand il me disait « Il n'y a pas beaucoup d'espoir. » Je me disais « C'est pas possible. Ça peut pas arriver comme ça en 3 minutes. » Et au bout de 45 minutes, plus aucun bruit. Donc du coup, là, j'ai compris. Et mon père me l'a annoncé quelques minutes après.
Quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis monté dans les étages. Et quand j'ai croisé le regard de l'infirmière, là j'ai compris que j'étais vraisemblablement décédé. Instantanément, j'ai basculé sur le fait que notre mère était en train de faire un malaise. Et on a échangé au téléphone avec notre frère Eric. Et à chaque fois qu'on se parlait, c'était... plus inquiétant que la fois précédente. Jusqu'au téléphone final où il m'a annoncé le décès de notre mère, où je lui ai annoncé le décès de notre père, parce que j'avais pas... C'est pas eu le temps, c'est que je ne lui avais pas dit et il ne m'avait même pas posé la question. Enfin, il ne s'est préoccupé de notre père qu'une fois que notre mère a été décédée et moi j'ai un peu fait l'inverse.
Donc il n'y a pas du tout de conversation. On était tous les deux dans notre espèce de... on était dans l'action. Alors dans l'action, j'étais dans l'action en train d'essayer de sauver ma mère. J'étais sans lieu de penser qu'il y avait un problème à l'hôpital. Quoi. C'est-à-dire, moi, j'étais complètement concentré sur le problème de malaise de maman. Voilà. Et puis donc c'est effectivement... après, j'ai appris. Et là, évidemment, c'est un choc. Mais on est en même temps tellement dans l'action que ce choc, c'est bon... Bah, c'est un de plus, quoi. Ça n'a pas été un choc, c'est après, bien évidemment.
Et Lucille ?
Et Lucille, j'étais la réveillée tout de suite. J'ai dit, voilà, écoute, parce qu'elle avait vu sa grand-mère, elle a tenu sa grand-mère. J'ai dit, écoute, mamie est décédée, ils n'ont pas pu la réanimer. Voilà, donc, et puis, elle était complètement angoissée. Donc, elle a eu sa mère au téléphone, quand même, si c'est vrai. Et par contre, c'est ça, on ne lui a pas dit que son grand-père était décédé aussi. On lui a appris le lendemain, après son concours.
Je me souviens avoir vu Denis un peu plus tard. J'ai entendu parler de papy, donc du coup, je l'ai su. Ils me l'ont dit officiellement le lendemain. Moi, j'ai pas vraiment dormi. Le plus dur, c'était de savoir qu'il y avait un corps dans l'appartement. La nuit, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, mais j'ai eu peur de traverser l'appartement. Savoir qu'il y avait un corps en plein milieu. Pourtant, je savais que le corps était dans la chambre. Ouais, c'est ça que j'ai le plus gardé en mémoire. Plus que d'avoir entendu que papy était décédé. J'ai entendu, mais j'ai presque zappé. Peut-être parce que je l'avais pas vu depuis longtemps et que c'était pas arrivé devant moi. Et puis, il était malade, donc on s'y attendait plus ou moins, même si on savait pas trop la réalité de son état. Enfin, en tout cas, ça paraissait moins choquant.
Le choc, il est physique. À la limite, c'est moins angoissant puisque tu, enfin, t'es en train de te confronter à ça et tu côtoies la mort et t'es en train d'essayer de vouloir sauver les gens. T'as pas le temps de, on n'a pas le temps de s'inquiéter, on n'a pas le temps du tout de paniquer puisque en fait, on est en train d'agir. Et donc l'esprit, il est concentré sur ça. Tu te prépares progressivement à la mauvaise nouvelle. Alors que quand on te l'apprend à des kilomètres en distance, tiens, boum, ça évite peut-être d'être traumatisé par la suite, hein. De le vivre. Différent.
Moi, je vous ai admiré, Eric et toi, d'avoir passé tous ces coups de fil.
On en avait besoin. C'était une évidence qu'il fallait il fallait parler, il fallait échanger. Et pas simplement rédiger un faire-part et l'envoyer par la poste. Sans doute d'ailleurs, avec la plupart, le dernier échange qu'on aurait au sujet de nos parents avec leurs amis. Est-ce que c'était un passage de relais? Est-ce que, en tout cas dans notre esprit, est-ce que c'était une façon... Moi je pense que c'était une façon d'exorciser en fait. Qu'il fallait, voilà, il fallait évacuer. Et pas garder ça pour soi.
C'est le lendemain que ça a été plus dur. J'étais choquée, mais sans beaucoup de réactions. J'ai hésité et puis je suis allée passer les épreuves du concours. Il y en a une, je suis sortie au bout d'une heure. J'ai quitté la salle d'examen, je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré. J'avais pas pleuré la veille, pas parlé non plus. Peut-être parce que j'ai été trop choquée.
À quel moment vous avez pensé à me contacter et comment vous avez pensé à me contacter ?
À mesure où moi, j'étais pas là.
Alors à quel moment exactement, ça, tu t'en souviens ? Moi, je ne saurais dire si c'est le matin ou l'après-midi.
Le matin.
Le matin, donc on l'a fait assez vite, je pense. On t'a tous les deux appelé en se disant, pourvu qu'elle ne nous rappelle pas. Enfin, pourvu qu'elle rappelle l'autre. Oui, c'est... Ça remonte. Je crois que je t'ai annoncé très vite que notre père était décédé. Et je ne me suis pas senti capable de passer à l'étape suivante. Donc là, j'ai demandé à parler à ton compagnon, Serge. Et donc, c'est à lui que donc j'ai de nouveau annoncé que notre père était décédé, mais que notre mère également. Voilà. Et là, je me suis excusé de lui confier une tâche aussi difficile. Et puis on a raccroché. Mais c'était trop dur. C'était trop dur à la fois de l'annoncer. Et surtout, évidemment, de t'infliger un tel choc, comme ça, instantané.
Comment annoncer une telle nouvelle ? Il n'y a pas de recette. Je crois que chacun a fait comme il a pu. Pour ma part, je n'ai pas su dire et ai préféré l'envoi d'un mail collectif. La seule que j'ai appelée, c'est mon amie Isabelle, Mazabou.
Je m'en souviens bien, je crois que c'était le matin, je ne sais pas ce que je faisais, mais pour le coup, je sais que j'étais par terre, j'étais sur ce futon. Je me revois à genoux. Et t'entendant pleurer, enfin me disant « je te dérange pas » et assez vite « papa est mort ». Mais je me souviens de la souffrance. J'avais le téléphone comme ça et je t'entendais me donner les infos et moi te dire « oui, où es-tu ?» Donc j'ai compris que t'étais loin, donc je me suis dit « est-ce que la souffrance c'est d'être loin ?» En larmes vraiment fortes, quoi. Genre, je t'avais jamais vu pleurer, mais toi, tu pleures pas, toi. Enfin, tu pleurais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc là, tu pleurais, hein. C'était la voix étranglée, et puis c'était les mots qui sortaient pas à cause des sanglots. Et assez vite, j'ai dû te dire, et Chouk, donc ta maman, que j'appelais Chouk, et là, j'ai eu le droit donc à la deuxième nouvelle. C'est pas tout. Alors ça, voilà. Et là, t'as l'impression que tu relèves la tête de l'eau et qu'on te la remet dans l'eau. Et c'est pas tout, maman aussi. Et là, j'ai dû te dire bon, là, c'est trop. Il y avait plus rien à dire, quoi, un truc comme ça. Et j'étais partagée avec le fait que je sentais un truc très très calme pour tes parents. C'est-à-dire que quand tu m'as dit que ta mère était morte, je sentais que c'était bien pour eux. J'ai dû te le dire, mais finalement, peut-être que pour eux, c'est une façon de ne pas se quitter. Ça me semblait presque rassurant. Donc il y avait une partie de moi qui était rassurée pour eux, qui était bien, et l'autre partie qui entendait que toi, t'étais mais pas bien du tout, quoi, que t'étais juste de la souffrance. Et je sais pas comment on s'est dit au revoir. J'ai dû m'assurer que t'avais quelqu'un à côté.
Comment on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, il faut trouver un truc qui permet de sortir. Et je pense que ma première réaction est de te prendre dans mes bras. Pour pas que ça explose. C'est dans la fulgurance. Comment ne pas te laisser seul avec ça?
Je vois Serge qui arrive en courant avec une tête paniquée, évidemment. Et viens, viens. Bluff, évidemment, je viens en me posant la question, qu'est-ce qu'il a pu arriver sur un parking avec une voiture garée? J'ai pensé à un accident, j'ai pensé... Mais ça s'est passé très vite. On est arrivés au parking tous les deux, et là, Serge m'a dit ce qui se passait. T'étais vraiment dans un état second. Et j'exagère pas. Toi, quand je dis état de choc, t'étais tétanisé. Il était hors de question de t'adresser la parole. Et moi, heureusement que physiquement, j'avais besoin de conduire la bagnole et de rouler comme un dingue pour rentrer. Ça m'a donné une contenance, entre guillemets. Et j'ai même eu beaucoup de mal à échanger trois mots avec les autres protagonistes, à savoir la sœur de Serge et Serge lui-même. On n'a pas dû se dire grand-chose, on était tous éteints et soufflés, tu sais, comme un boxeur groggy, quelque part, on était... Toi, bien pire, évidemment, mais ça s'est transmis, quoi. C'était dans l'air, c'était dans la bagnole, c'était comme ça, quoi. Quand je dis choc, je dirais presque le mot est faible. C'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu, quoi. C'était...
Crier la douleur de la disparition, crier l'urgence à se faire épauler, crier le besoin de sommeil, crier l'angoisse de la solitude. Rire de tout cela, je n'y suis pas encore. Écrire pour ne pas étouffer, pour déposer des mots, pour alléger la peine et soulager le cœur. Rire de tout cela, j'espère, un jour. Et prendre la parole, poser des questions, faire surgir la mémoire et dire « Vous me manquez ». Rire de tout cela. Un jour, peut-être bientôt.
Rentrez, puis on va faire ça à reculons, voilà.
Voilà, fermez la porte derrière vous. Vous refermez.
Voilà, et vous allez là-bas.
Après, ouais.
Voilà. Je vais sauter. Alors, installez-vous où vous voulez.
Mets-toi confortable, puis nous, on va s'adapter.
Ben, je me mets là.
Voilà. Tu te mets là? Ben voilà. Ben dis donc.
Ouais, c'est... Je me mets là, voilà.
Tu peux dire ce que c'est que celui-là?
C'est le fauteuil que Monique nous a donné. Voilà, elle avait deux fauteuils comme ça, et elle les avait fait refaire, et le réparateur les a apportés après leur décès. Donc j'ai posé, ça se passe bien, t'as commencé là, les enregistrements?
Les enregistrements, ouais, j'ai commencé par la famille en fait, moi je n'ai rien prévu, hein, ça s'est fait comme ça, les disponibilités des uns et des autres.
Mais tout d'un coup, j'ai perdu la mémoire des séquences, c'est-à-dire que ton père était bien à midi. Qu'est-ce qui s'est passé entre midi et... Enfin, en tout cas, il avait une bonne voix. Yvon était à l'hôpital. Et Monique, on l'avait invité à déjeuner ici, le dimanche, à 13h. Et elle était fatiguée. Normalement fatiguée, tu vois. Elle hésitait à aller à l'hôpital voir Yvon. Et donc je lui dis, écoute, si t'es fatigué, va le voir plutôt demain. On va l'appeler. Donc on l'a appelé ensemble. Là, moi, et on lui a parlé. Et il était très en forme. Hein. Il était, enfin tu vois, Il avait une bonne voix. Et il dit à Monique, c'est pas la peine de venir, viens demain. Et puis, donc, tu vois, les trucs un peu rituels du style... il me reprend après, il dit, bon, t'es sûr qu'elle a les clés, hein, qu'elle oublie pas les clés. Enfin, des petites conneries comme ça, tu sais, voilà. Est-ce qu'elle a les clés? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Je lui dis, non, mais ça va très bien. Et puis donc, après, je sais pas, sur les coups de 4 heures, Monique est partie. Pour nous, tout allait bien. Monique était fatiguée, mais elle n'était pas non plus, tu vois, si fatiguée que ça. On sentait qu'elle avait... On sentait quand même qu'elle était préoccupée. Elle était préoccupée. Et donc, le lendemain matin, donc nous, c'était le lundi 10 mai, je vois Laetitia en face qui me dit qu'il y avait des pompiers hier soir pour Monique. Tu vas te tromper, Monique, on l'a vue hier, elle allait bien. De quoi tu parles? Je comprends rien. Voilà, moi, pendant que j'appelais Denis, Juliette appelait Eric, et tout d'un coup, je vois Juliette se décomposer. Et là, je comprends que, entre ce que me dit... Laetitia, ce que je vois de ce qu'entend Juliette, je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est passé de grave. Et on est allé très vite aider tes frères pour parce qu'ils étaient paumés, quoi, pour trouver les papiers, pour le, voilà, parce qu'on savait à peu près où ils rangeaient leurs papiers. Parce que Monique était syndic bénévole de l'immeuble avec nous. Voilà, donc on les a aidés un peu à... savoir comment on allait faire, quoi. Puis moi, je pensais à toi. Je me disais, mais comment ils vont l'annoncer à Véronique, quoi. Et ça a été un choc pour... Bon, ça a été un choc, évidemment, pour vous d'abord. Pour toi, aussi loin. Mais un choc dont on ne s'est pas remis, vraiment. Enfin, moi, je ne m'en suis pas non plus remis, tu vois. C'était 3 ans après la mort de mes parents. Et c'était comme des parents, quoi. J'avais l'impression que je perdais... C'était vraiment des amis, quoi. Je débarquais à tout moment chez eux. Enfin bon, tu vois, c'était comme une famille, on débarquait, quoi. Ça a été incompréhensible, quoi. Ça a été un choc, mais tu vois, comme une traversée pendant ces 3 jours.
C'est une soirée et un lendemain que j'oublierai jamais, quoi. Je veux dire, c'est le genre de truc, ça... D'abord, c'est rare. Avec du recul, après, tu te dis, bon, est-ce que si on avait pu en sauver un, ça va bien. Et puis, quelque part, tu te dis, c'est pas plus mal qu'ils soient partis tous les deux.
Ça a été comme ça, une espèce de vide. Et tout le monde a été, mais ravagé. Parce que, tout d'un coup, on a senti vraiment l'absence et le vide, voilà.
Il y a 7 ans, je vidais l'appartement de mes parents, avec mes frères. Hébété. J'exécutais les tâches comme un robot. Si peu de force dans les jambes. Trier, garder, jeter, je l'ai fait. Contre mon gré. Obligé devant le fait accompli. Ils étaient partis ensemble et ils nous abandonnaient brutalement. C'est cette douleur qui m'anime aujourd'hui et me pousse à écrire. Me délivrer de ce traumatisme vécu il y a 7 ans, qui ressurgit dans le temps de l'été, celui de la vacance. Celui des vacances, possiblement en famille. Une maison en Normandie qui me manque, un regroupement familial dont je ressens l'absence, des coups de téléphone... qui ne sont plus, des inquiétudes, l'un pour l'autre, qui n'existent plus.
Respire. Respire.
Mes parents étaient 2, mais ne faisaient qu'1. Ils sont partis en couple, à une petite heure d'intervalle. Impossibilité pour ma mère de survivre. Elle fut déclarée veuve pendant 65 minutes.
la revoir ici avec quand même une certaine inquiétude, parce que moi je la rassurais beaucoup en disant mais ne t'inquiète pas Monique, t'as vu, on lui a parlé, il va bien, ne t'inquiète pas. Non, moi j'avais rien compris quoi, mais elle, je pense qu'elle avait tout compris.
Moi je n'ai pas compris. Quand le médecin m'a parlé, je n'ai pas compris. Elle, elle l'a compris. Elle avait anticipé d'une certaine manière ce qu'on n'avait peut-être pas fait nous. Je pense qu'elle était beaucoup plus consciente de la gravité de l'état de son mari qu'on pouvait l'être.
Elle a senti.
Elle n'a pas su.
Elle n'a pas su, mais elle a su quand même. Ouais. Ouais. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. On peut savoir ce qui s'est... deviner ce qui s'est passé dans son cœur et dans... tu vois, dans tout son être, mais on ne peut pas savoir ce qu'elle s'est dit. Je leur demanderais bien, mais pourquoi? Tu vois, comment c'est possible de vivre aussi longtemps ensemble? Et en fait, est-ce qu'il y a un moment, il y a eu une décision? Tu vois, c'est dans le départ de ta mère, ça serait ça la question. Est-ce qu'elle s'est dit, moi s'il part, je veux partir aussi? Ou est-ce que ça a été juste un mouvement de vie, tu vois, un élan de et donc de mort, de partir avec. Et ça c'est mystérieux, mais jamais on saura. Sauf après, quand ça sera nous.
Ah oui, non, ça c'était extraordinaire. Dans l'autre appartement, il y a un accès au toit. Et puis un jour, on voit un petit chat débarquer. Pas un chaton, mais tu vois, pas l'adulte, pas le chaton, mais un between, quoi. Un petit chat, tu vois, un jeune, très jeune chat. Et qui est venu ici et qui s'est installé comme s'il était chez lui. Il allait partout, il était là, et on s'est dit, mais d'où vient ce chat, quoi? Et moi, j'ai dit, c'est Monique et Yvon qui reviennent. J'étais persuadée de ça. J'étais persuadée que c'était Monique qui a envoyé le chat. C'était une réincarnation. Mais c'était... parce que les chats sont quand même pas familiers. Et lui, il était d'une familiarité, mais c'était hallucinant, quoi. Comme s'il avait toujours habité là. Ça m'a beaucoup réconfortée, ça. Voilà, ça m'a beaucoup réconfortée. C'est-à-dire, je l'ai vu comme un signe d'une présence...
Faire avec l'absence. Après, il a fallu vider appartement et maison de campagne. Se débarrasser de l'enfance, des souvenirs qui remontent depuis la cave, dans un coquetier retrouvé, d'un petit vélo qui raconte le temps des grands-parents, d'un filet de pêche qui fait surgir des éclats de rire. Et puis, faire avec l'absence, les envies de téléphoner, de leur parler, se surprendre à décrocher le téléphone pour les appeler. Ne plus entendre la sonnerie de celui-ci le soir ou le dimanche. Combien de temps les ai-je laissés dans les contacts de mon répertoire? Je ne sais plus. Je crois qu'à la faveur d'un changement d'appareil, ils se sont effacés. Faire avec l'absence.
Et t'étais en colère contre ta mère qu'elle parte?
Non, pas tout de suite.
Pas tout. Mais tu l'as été?
Oui. Enfin, plonger vraiment dans l'intimité, comme ça, comme une maison qui n'aurait pas été fermée à clé. Enfin, tu vois, c'est, ouais. c'est en un quart de seconde que ça arrive. Donc ça, ouais, cette intrusion dans l'intimité, dans leur intimité, pour moi, elle a été super violente. C'est des questions que j'avais pas envie de me poser, en fait. Tout bêtement, enfin, pas... J'avais pas à décider ça, quoi. Et tout d'un coup, on me le servait comme ça, en me disant, bah si, il faut prendre une décision. Et vous êtes trois, et accordez-vous. Enfin, quoi.
Vous avez assez...
Et on s'est très bien accordé,
assez
donc.
Assez bien réussi, ouais.
Là-dessus,
oui.
Là-dessus,
oui.
C'est une grande chance.
C'est pas celle-là, c'est le... la deuxième.
J'ai un plan de cimetière dans mon sac, donc on va pas être perdu.
Moi, mais bon, moi j'ai le plan dans la tête, puisque je viens toujours par l'entrée principale. Je vais voir monsieur et madame Lamandour, et après je repars vers Paris, l'autre sortie ou entrée annexe. En général, je viens toujours le matin de bonne heure, un jour où je ne travaille pas, pour ne pas être tenu par le temps. On va prendre un droit. Je me rappelle de la mort de tes parents qui est très triste, mais aussi de leur bonté, de leur rigolade, de leur sourire, de leur café, de leur... je sais pas, plein de trucs, quoi. La tristesse, elle s'en va pas, mais on arrive à l'apprivoiser, à la caresser. Bon, elle fait partie, mais... Après, je crois que c'est les petits moments passés avec les gens qui sont partis qui nous rassénèrent, qui nous réconfortent, qui nous redressent. On prend à gauche, là. Il y a des fois, je viens, je verse une larme. Il y a des fois, je verse pas de larmes. Enfin, je verse une larme parce que bon, c'est peut-être plus ou moins émotif, quoi. Parce que monsieur et madame Lamandour, pour moi, c'est bon. Comme d'autres personnes dans ma vie aussi, parce que bon, j'ai plus 20 ans, font partie de ma vie, font partie aussi, on peut dire, des portes ouvertes. Parce qu'on m'a souvent claqué les portes au nez. Il y a des fois, j'étais obligé de défoncer des portes. Mais avec monsieur et madame Lamandour, d'emblée, je crois que la porte était grande ouverte. Elle s'est jamais refermée. Jusqu'à présent, on pourrait dire qu'elle s'est refermée parce qu'ils sont partis. Mais quelque part, ils m'ont laissé la clé. Même toi, si tu viens pas, ça sent qu'il y ait quelqu'un, peu importe la personne de la famille ou pas de la famille ou une voisine, qui vient, est-ce que ça te déculpabilise, si tu as une culpabilité, ou si ça te fait plaisir, ou si tu dis « Oh ben, elle y va, moi j'y vais pas », ou c'est quoi ton sentiment?
Ça me touche en fait de venir aujourd'hui avec toi, parce que je sais que toi tu connais cet endroit et que tu t'en prends soin en plus, d'une certaine manière. Ça me fait plaisir.
Ça te fait plaisir.
Ouais,
parce que toi, tu peux pas y aller.
Ça me manque pas. En fait, moi, je pense à eux tout le temps. Je pense à eux ailleurs. J'ai pas besoin de venir ici. En
oui.
Fait.
Mais moi, je crois que c'est un besoin pour moi. Mais aussi, j'essaie de me raisonner, de dire qu'il faut. Si on va trop au cimetière, on retient les gens. Sur terre, faut les laisser s'envoler.
J'ai la mémoire d'une très longue journée pour leur enterrement et d'une multitude de mains qui se tendent, de baisers qui se déposent, de bras qui s'ouvrent. Pour moi, ce fut un tourbillon. Je passais de bras en bras, j'embrassais, je recevais des mots, des larmes, mais j'étais comme étourdie. J'avais l'impression d'être une poupée en chiffon qui passe de main en main.
J'ai un souvenir d'un truc, d'un tourbillon qui ne s'arrête pas. La décompression, c'est après les obsèques. Le passage, il se fait là, et notamment la célébration religieuse. Le terme, c'est très amusant, c'est « repose en paix », mais c'est aussi « repose en paix » pour les proches. Les proches trouvent la paix parce qu'ils ont accompagné le passage. Et ça, en tout cas, moi, je l'ai ressenti très fort, je veux dire.
C'est incroyable d'avoir dans une église deux cercueils côte à côte. C'est un truc que tu n'imagines pas. Et c'était très apaisé. Hein. Tous les gens ont trouvé qu'il y avait quelque chose de doux. C'était pas brutal, c'était pas... Enfin, moi, je sais pas, les gens avaient l'air apaisés de tout, y compris de les voir ensemble.
Quand toute une foule qui est en communion, c'est même pas un terme religieux, c'est en communion avec toi, pour t'accompagner dans ce moment qui est un moment douloureux, mais qui est un moment de recueillement, qui est aussi un moment de joie, puisqu'en fait, j'ai ressenti ça comme un grand moment de joie et d'amour, eh bien, c'est extrêmement apaisant.
Moi, je ne suis pas revenue pour l'enterrement. Ça a été un peu un traumatisme parce que j'avais l'impression de ne pas leur dire au revoir. Donc, et en même temps, si tu veux, ça a été très douloureux de ne pas venir à l'enterrement. Et en même temps, c'est comme si j'avais été là parce que tout le monde m'a raconté. Et après, j'ai fait le tour du quartier parce que Monique était une vraie pipelette au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle avait des amis partout. Voilà, donc j'avais besoin qu'on me parle d'eux, quoi. Et je passais mon temps avec la fromagère, avec le boulanger, tous les gens qui la connaissaient pour parler d'elle, voilà, pour la faire vivre encore, quoi. Et donc ils font vraiment partie de ma vie, quoi. C'est ce que, oui, je sais pas si t'avais raconté que tu sais, ton père nous donnait toujours, il faisait des bouillons de poulet. Il faisait bien la cuisine, donc il nous donnait des choses. On le mettait au freezer. Et après qu'il soit mort, si tu veux, en freezer, on a trouvé ça, puis on les a mangés, tu vois. Mais c'était comme une cérémonie, parce que c'était très étrange, tu vois, de manger un plat qu'avait fait Yvon. Mais il y a quelque chose, si tu veux, c'est vrai que cette histoire de chat, et peut-être les plats d'Yvon, ça a calmé quelque chose, c'est-à-dire que même si ça a été aussi brutal que ça, si tu veux, ça... Je suis en paix maintenant avec leur disparition, c'est-à-dire que je sais qu'ils sont bien, je sais pas comment te dire. Je sais qu'ils sont bien.
Aujourd'hui, si tu sais ce que tu aurais envie de leur offrir quelque chose. Là où ils sont. Leur offrir.
Peut-être de m'avoir fait comme je suis. Les remercier de m'avoir fait comme je suis.
On peut dire des trucs un peu... Je leur ai parlé quand mon père était très malade et que tu sens que ça va être compliqué. Tu demandes de l'aide aux gens là-haut et ils faisaient partie des gens à qui je demandais de l'aide. Voilà, après, tu appelles ça la prière, la connexion, le... Leur offrir, ce serait prétentieux de leur offrir quelque chose. Je ne saurais pas quoi leur offrir, juste mon... Le fait que je pense à eux et que tout ça est très mystérieux, mais que pour moi, ils sont présents quelque part.
Tu vois, ils sont là, comme ça.
Tu vois, la prochaine fois que je viendrai, j'enlèverai tous ces liserons là. D'ailleurs, je vais tirer. Tu t'embêtes pas que je fasse.
Non.
Je vais tirer les. Oh, parce que ça, c'est. Ça me.
Ah, mon pot, il était en dessous des liserons, tu vois.
Mais dès qu'il pleut, ça pousse à une vitesse. C'est peut-être pas le moment de le faire. Hein. Normalement, je le fais toute seule. Voilà, comme ça, c'est un peu plus dégagé. Bon, alors, les petits anges, ils sont là, ils sont tous... ils ont vieilli comme tes parents, c'est marrant. Mais ils sont pas morts, ils sont là.
Et moi, je vais peut-être déposer ce que j'ai apporté.
Oui. Ah bah oui. Attends, on va.
Spontanément, je dirais que je leur offrirais bien 50 ans de vie supplémentaire. Et ta mère trottine un peu partout, comme elle savait le faire.
J'aimerais leur montrer mon parcours, là où j'en suis. Moi, ce que j'ai réussi à faire. Aujourd'hui, ce qui me fait bizarre, c'est d'imaginer qu'en décembre, je vais soutenir ma thèse. Il y aura tout le monde, mais pas eux. Du coup, ils verront pas ça.
Donc ça, c'est des plantes que j'ai achetées ce matin.
Il y a un pommier d'amour et une Véronique. Nous s'en vont, tous ces proches qu'on aime, ces certaines affections, qu'on est long, à dire les je t'aime, qu'on pense quand ils s'en vont. C'est le village qui est juste avant, c'est Saint-Malo de la Lande. Je repère. Mes chers parents, je vous écris ces quelques mots pour vous dire à quel point vous êtes gonflés d'être partis comme vous l'avez fait.
On va continuer tout droit parce que si on passe à droite, on arrive par l'arrière de la maison, ce dont je n'ai pas envie.
Vous ne nous avez pas laissé le temps de vous dire au revoir. Vous étiez si pressé d'aller ailleurs? Bon, je ne vous en veux plus. Mais puisque vous avez fait le chemin, vous pourriez peut-être me dire comment est cet ailleurs? Est-ce qu'il existe? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Merci de m'envoyer un pigeon pour la réponse. Ici, ça a été dur, mais la vie continue. Et puis, je vous fais un peu revivre en ce moment, par le biais d'un documentaire dans lequel je parle de la douleur de votre départ. En fait, ça fait 9 mois que je vous trimballe avec moi, et je me répare. Ça m'a donné l'occasion de retourner dans l'immeuble où nous avons vécu tous ensemble, pour aller chez Marie-Pierre. Avant, j'étais passée dans la rue, en allant chanter avec la chorale au stade Jean Dame. Oui, maman, je chante aussi dans une chorale. Et puis cet été, je suis allée devant la maison de Normandie. On l'a vendue et ça a été difficile pour moi. Alors je n'y étais pas retournée.
C'est vrai que ah oui. Dans notre escalier aussi, il y avait un vieux monsieur.
J'ai aussi réécouté vos voix dans l'émission qu'avait faite Marie-Dominique Arrigui sur ses voisins.
Qui était un petit peu grognon, oui.
J'ai failli ne pas te reconnaître, Chouk. Et ça m'a troublée.
Il s'est tellement courbé que tout le monde l'avait surnommé angle droit.
Mais toi, papa, je t'ai reconnu sans hésiter.
Quand on est venu le voir le lendemain matin.
Tu es celui qui parle en même temps que maman.
Il était
droit comme un nid.
C'est trop drôle.
Je m'en souviens très très bien de sa voix.
C'était la voix de madame Machin, là.
C'était la voix de maman.
J'ai pas reconnu.
Ah bah si, moi je la reconnais, mais tout de suite.
Ah là, je la reconnais.
Et puis sa façon de raconter, et puis son... Ah oui, mais tout de suite.
Ah ouais, ça j'en connais là.
Une façon de dire un peu des trucs un peu horribles, avec un ton très, tu vois, très doux. Et deux gars là, un jour, elle en a eu assez. J'ai pas oublié, en tout cas, j'ai pas oublié leur voix.
C'est génial.
Alors j'ai cru qu'il allait avoir un gros rire.
Elle a la voix très jeune.
Mais c'est non. Que ça. Oui. C'est ah, alors c'est, bon, c'est déjà bien.
Tu vois, ton père, je l'ai reconnu tout de suite. Je reconnais les expressions. Ah, mais c'est émouvant de les entendre.
Bah, du coup, j'ai pris un champagne. Bah, quoi ? Avec les coupes de ma grand-mère.
Voilà, les quelques nouvelles d'ici. Je vous souhaite du bon temps et vous embrasse bien fort. Votre Véro. Post-scriptum, si vous avez envie de me faire un signe, ne vous gênez pas. Postscriptum 2. J'ai aussi écrit une nouvelle sur votre départ. Et c'est d'ailleurs par là que tout a commencé. C'est mon amie Lara qui va la lire.
Santorin, parking de Fira, mai 2017. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sait bien qu'elle ne va rien trouver sur ce parking, tout au plus des fantômes. Et pourtant, une force la pousse. Elle a besoin de creuser, 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 pour avancer, continuer à vivre. Dans son plus mauvais grec, elle avait demandé l'autorisation d'installer une zone de 2 mètres sur 2 de fouille, invoquant la perte d'une immense valeur sentimentale 7 ans auparavant, à cet endroit même. Autorisation accordée, elle en fut la première étonnée. Impression que la femme qui l'a reçue a senti que sa recherche était vitale. Elle s'est donc installée sur le parking, à l'endroit où sa mémoire la guide. Depuis, elle creuse, elle écrase, elle tape sur des pierres pour faire jaillir les dessous du drame. Sa colère passe par l'arrachement de ces pierres, colère de l'abandon, brutale, sans appel, qui laisse une infinie tristesse. Elle tape encore et encore. Elle fatigue son corps en souffrance depuis 7 ans. Les souvenirs remontent. C'est un lundi, le 10 mai 2010. Elle est en route pour Fira avec des amis. Dans la voiture, son téléphone lui délivre un message de son frère aîné. Véro, rappelle-moi, les parents ne vont pas bien. Elle ne prête pas attention au pluriel. Elle attend d'être sur ce parking pour avoir du réseau et le rappeler. Elle tombe sur sa messagerie. Appelle son autre frère, également sur messagerie. L'inquiétude la gagne. Ce dernier la rappelle 15 minutes plus tard. Es-tu assise? Oui, elle est toujours dans la voiture. Papa est mort cette nuit à l'hôpital. Pas de réponse. Les larmes coulent. Elle ne peut plus parler. Il demande à parler à son compagnon. Son père, malade d'un cancer, n'était pas en phase terminale. Sa mort arrive trop vite, trop tôt. Dans le brouillard de ses larmes, elle entend des bribes de conversation, quelques exclamations. « Oh non, c'est pas vrai, c'est pas possible. » Elle est emmurée dans sa douleur. Elle entend, mais ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas imaginer une seconde que son monde s'écroule. Saloperie de parking. Elle est en train de faire un vrai chantier de son petit périmètre de fouille. Encore une plaque de pierre au sol qu'elle n'a pas touchée. Elle est presque intacte. Juste quelques éclats l'ont abîmée. Mal au bras à force de taper. Cassé, creusé. Mais il reste cette plaque à soulever pour aller au bout de cet exutoire. Il doit être aux environs de 10h30 ce 10 mai, quand son compagnon lui propose de sortir de la voiture, elle la prend dans ses bras. Il la questionne sur ce que lui a dit son frère et finit par lui dire « Ta mère a fait un malaise ». Elle le coupe immédiatement, demande où elle est, si elle est à l'hôpital, comment elle va. Elle culpabilise de ne pas avoir pensé à elle. Elle a à peine le temps d'angoisser qu'il lui dit « Elle n'a pas survécu ». Elle est morte chez elle. Les pompiers n'ont pas pu la ranimer. C'est un grand cri qui est sorti de son corps à ce moment-là. Un immense non hurlé, pleuré, craché. Non à la mort. Non à la double perte de ceux qui lui ont donné vie. Sonné, hébété, impossible de croire ce qu'on vient de lui annoncer. En 10 minutes à peine, elle est devenue orpheline. Elle erre sur le parking, à garde. Elle ne sait même plus si les larmes trouvent leur chemin, tant le choc est grand. Ce choc qui longtemps la rendra incapable de parler de ce drame. Là maintenant, les larmes sont là. Elle a soulevé la dernière pierre. Et la scène finale lui est revenue intacte, comme si c'était hier. Il lui fallait dégager cette pierre pour revivre ce moment de l'annonce du décès de sa mère. Le revivre pour le rendre réel et l'accepter. Accepter cet abandon, si longtemps insoutenable. Accepter qu'il n'aurait probablement pas survécu à la mort de l'un des deux. 52 ans de vie commune, en fusion. Ils ne pouvaient faire autrement que de partir ensemble. Elle regarde autour d'elle, contemple le carnage fait sur cette petite parcelle et se sent assez fière parce que... apaisée. Elle va pouvoir continuer à vivre plus légère, moins dévastée, plus forte aussi. Et puisque le trou est fait, elle va proposer aux autorités grecques de planter un arbre à cet endroit où elle pourra venir puiser la force quand ses vacillances seront trop grandes. Un arbre de vie pour célébrer la mort. Un arbre pour enraciner l'amour. Celui qu'elle ressent pour ses parents. Partis trop vite, trop tôt, mais ensemble.
Un arbre de vie pour célébrer la mort. Un arbre pour enraciner l'amour. Celui qu'elle ressent pour ses parents. Parti trop vite, trop tôt, mais ensemble. Un grand merci à mes frères Éric et Denis, à ma nièce Lucille et à mon ex-compagnon Serge, dont les témoignages ont été dits par Florence Valero et Mathieu Laurent. Merci à mes amis Zabou et Marco, aux voisines et amies de mes parents, Marie-Pierre et Laetitia, et à Lara Brulle pour la lecture de la nouvelle Le Long Cri. Merci aussi à Jean-Pierre de m'avoir conduite sur le chemin de ma Normandie, aux clowns de Romans-sur-Isère qui m'ont aidé à respirer, et à la Lucciola, résidence poétique itinérante, qui a vu la naissance de cette création. Et tant d'autres merci que vous trouverez sur le site de France Culture, à la page de l'émission Création on Air, où Shushan Djergaïan et Irène Omelianenko sont à l'œuvre. Pour la documentation sonore, merci à Arnaud Touvron qui a retrouvé les voix de mes parents, et à Clément Lebrun et Antoine Vuillose qui nous ont proposé des pistes de cri musical. À la prise de son studio, Olivier Dupré. Au mixage, Valérie Lavalard. Le deuxième cri, une création dans l'air de Véronique Lamandour, réalisée par Annabelle Brouard.
Cette création est disponible en ligne et podcast sur le site de France Culture. Demain, dans Création On Air, Pourquoi je veux partir, un atelier de création radiophonique de Romain Cronenberg et Gilles Mardy-Rossian. Tout de suite, Les Nuits de France Culture, présenté par Philippe Garbi.